En ce début d'année, on a commencé, on n'a pas encore terminé les petits prophètes. On a fait 6 petits prophètes, donc on est arrivé à la moitié. Et on a pensé que ce serait bien de faire une étude. Et c'est dans cette étude que je veux vous embarquer, dans cette étude que je remets vraiment au Seigneur, parce que le sujet de cette étude, c'est Jésus-Christ. C'est la prééminence de Jésus-Christ sur toute autre chose. C'est la fameuse lettre aux Hébreux. Et je vous invite à vous y tourner. Si vous avez des Bibles, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire signe, on vous en distribuera. Si vous avez besoin de traduction, James propose d'aller traduire pour vous. La lettre aux Hébreux. C'est un passage des Écritures qui nous donne beaucoup d'instructions sur la véritable identité de Jésus-Christ. On a souvent des mauvaise conception sur l'identité de Jésus-Christ. Certains pensent que il y a Dieu et puis il y a le Fils, et que Dieu est supérieur au Fils, que c'est lui qui l'a envoyé. Mais on va voir en étudiant cette lettre la véritable identité de Jésus-Christ. On va voir qu'il est Dieu. Il est Dieu le Fils, et le concept qui est présent dans toute la Bible, c'est celui de la Trinité, un Dieu unique en trois personnes. C'est un concept difficile à saisir. On peut donner des analogies pour montrer que il y a des choses qui sont une en trois, comme l'eau. Par exemple, l'eau peut être vapeur, liquide ou solide sous la forme de glace. On peut parler de l'œuf qui est à la fois une coquille, un blanc et un jaune. Mais tout ça, ce sont des analogies un peu faiblardes. Parce qu'on est devant un mystère, mais ce qui est intéressant, c'est pas ce que l'on essaie d'expliquer. C'est ce que Dieu révèle. Et dans sa parole, il a choisi de faire écrire par son Saint-Esprit cette lettre aux Hébreux. Sans refaire l'étude qu'on a faite la semaine dernière et qui sera disponible sur Internet, et je vous invite à l'écouter, on a vu qu'on n'était pas sûr de qui était l'auteur de cette lettre. C'est quelqu'un en tout cas qui connaissait très bien l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, et qui nous explique comment Jésus-Christ répondait aux prophéties de l'Ancien Testament et comment il est supérieur à tout ce qu'on peut imaginer. C'est ma prière, c'est mon souhait, c'est qu'on ait un plus grand respect pour Jésus-Christ en cette année. On parle souvent de donner une vision pour l'année nouvelle. Mon souhait, c'est que Jésus-Christ soit notre vision cette année. Il est la chose la plus formidable dans l'univers. Les qualificatifs vont apparaître tout au long de l'étude. Et ce qui est intéressant aussi, je l'avais fait remarquer la semaine dernière, c'est que souvent on trouve que les passages que ce livre, cette lettre, est compliqué, et qu'elle est même peut-être trop compliquée. Et en fait, je disais, ce qui compte, c'est de savoir à qui la lettre est adressée. La semaine dernière, je disais que j'avais reçu un SMS qui était en fait un SMS pour quelqu'un d'autre. Et si je n'avais pas vu le fait que la personne était indiquée au début, j'aurais été très perplexe, j'aurais pas compris ce qu'il fallait que je fasse ou ce qu'on voulait me dire. Et dans cette lettre, on a parlé la semaine dernière qu'en fait, il y a en fait trois types d'audience. Les Hébreux, c'était les Juifs. Les Juifs. Et il y avait des Juifs qui étaient devenus chrétiens engagés, qui avaient réalisé qu'en fait, le Messie que la Bible leur promet était arrivé en la personne de Jésus-Christ. C'était des chrétiens engagés, c'était des chrétiens que cette lettre veut encourager. Encourager les engagés. C'est une première chose. Et puis il y avait des Hébreux qui étaient convaincus intellectuellement. Oui, c'est vrai que sans doute il y a un Dieu, sans doute Jésus-Christ, ça doit être lui. Mais ça ne résonnait pas dans leur âme au point de transformer leur vie. C'était des chrétiens non engagés, qu'on peut dire en fait, qu'on peut qualifier de non-chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas ne pas être engagé. Quand on a compris Christ, quand on a compris ce que c'est qu'être chrétien, forcément on va vouloir faire quelque chose pour lui. Forcément on va vouloir persévérer dans la foi. Forcément, on va vouloir lui obéir et s'engager pour lui. Forcément, on va vouloir partager notre foi avec ceux qui nous entourent et qui ne le connaissent pas. Et donc, un troisième groupe, c'était les Hébreux athées, dans le sens où ils avaient une foi, une religion plutôt, mais ils n'étaient ni chrétiens ni convaincus. Et suivant les passages, il est important d'essayer de déterminer quelle est l'audience visée. Et si on fait ça, on va voir que ça nous permet de comprendre cette lettre sans problème. Mais c'est vrai que si on croit qu'il parle à des chrétiens engagés, alors qu'en fait il parle à des athées non convaincus, on va se mélanger les pinceaux, comme on dit, et on ne va pas comprendre proprement, de façon correcte, la lettre. On a commencé les trois premiers versets, on a étudié les trois premiers versets de cette lettre. Et encore une fois, cette lettre, elle est écrite pour nous montrer que Jésus-Christ est fantastique. Jésus-Christ, il est vraiment la réponse à toutes vos questions, la réponse à toutes vos aspirations. Si vous vous concentrez sur lui, vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est le message haut et fort de cette lettre. Cette lettre, elle vise à démontrer la supériorité de Christ sur tout ce qui peut vous accaparer. Elle était une lettre destinée aux Hébreux parce qu'on pense qu'elle a été écrite avant la destruction du Temple en l'an 70 de notre ère. On pense qu'elle a été écrite entre 65 et 70. Et il y avait déjà eu des persécutions contre les chrétiens avaient commencé à se faire jour. Néron, c'était en 64 qu'il avait persécuté de façon horrible les chrétiens. Et parmi ces juifs qui étaient devenus chrétiens, ou ceux qui étaient d'accord intellectuellement, ou ceux qui pensaient que Christ n'était pas vraiment le Messie, les athées en quelque sorte, les non-chrétiens, il y avait le sentiment que cette nouvelle religion, entre guillemets, le christianisme, était bien trop dangereuse et qu'ils ne voulaient pas perdre leur vie et qu'ils se disaient qu'en fait, revenir à la foi de leurs ancêtres avec les sacrifices dans le temple, etc., c'était peut-être pas si mal que ça. Et donc, l'auteur de la lettre, on pense, il y a plusieurs hypothèses encore une fois, on pense que c'était peut-être Paul, parce qu'il connaissait très bien l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, mais des raisons nous font penser que c'était pas vraiment lui. Des gens ont proposé Apollos, d'autres ont même proposé Aquila, la femme qui avait instruit avec son mari Apollos. D'autres ont parlé de Clément, des pères de l'Église. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le Saint-Esprit qui l'a dicté à l'auteur de la lettre, parce qu'elle est pleine de sagesse, pleine de grandeur. Elle se base de façon intriquée, de façon vraiment précise sur les paroles de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Et cet auteur, tout ce qu'il veut faire, c'est dissuader les gens qui sont tentés de quitter la foi chrétienne pour revenir à ce qui était plus confortable. Il veut leur éviter cette grave erreur. Et pour ça, il va leur montrer que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la façon dont Dieu a choisi de nous parler, Dieu le Père a choisi de nous parler dans ces temps qui sont les derniers. Lisons-les pour un rappel, les trois premiers versets. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » On a fait remarquer que c'était un des plus beaux passages de la Bible, au même titre que le début de la Genèse, le début de l'évangile de Jean, que ces trois premiers versets qui nous peignent en quelques coups de pinceau la véritable personnalité de Jésus-Christ. Encore une fois, je ne veux pas refaire l'étude de la semaine dernière, donc on va vous renvoyer à l'enregistrement de l'étude de la semaine dernière, qui, en fait, on pourrait dire, nous montrait que Jésus-Christ était supérieur aux prophètes. Aujourd'hui, dans le reste du chapitre 1, on va voir que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Alors aujourd'hui, je doute que ce matin, vous soyez venu à l'église en disant « J'espère aujourd'hui que Pierre va me montrer que Jésus est vraiment supérieur aux anges. » Il y en a qui ont eu ce souhait. Ça ne m'étonne pas, parce que pour nous, c'est assez évident que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Et pourtant, parmi nous, dans notre société, il y a des tas de sectes, de fausses religions qui prétendent que Jésus n'est qu'un ange. On a par exemple les témoins de Jéhovah qui pensent que Jésus, c'est l'archange Michel. Font pas de différence entre lui et l'archange Michel, le grand ange qui est nommé dans la Bible. Et donc, eux, ils assimilent Jésus à un ange. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas, si vous parlez à des témoins de Jéhovah, amenez-les sur le terrain de la lettre aux Hébreux, et on y reviendra au fur et à mesure. Il y a des choses qu'ils ont bien du mal à effacer, à escamoter, et j'essaierai de faire allusion à ces mensonges qui sont dans leurs écrits. Ils ont une version de la Bible qu'ils appellent la version du Nouveau Monde, qui essaye de modifier le texte biblique pour satisfaire leur description et leurs fausses croyances, avec beaucoup de zèle. Et c'est toujours difficile de réaliser que ces sectes font plus pour le mensonge que bien souvent les chrétiens ne font pour la vérité. Ils sont persuadés que le salut, c'est basé sur le mérite et qu'il faut faire de la prédication. Donc c'est pour ça qu'ils viennent frapper à vos portes et qu'ils mesurent le temps qu'ils ont passé en prédication, parce qu'il y a un super paradis de 144 000 élus et ils espèrent peut-être un jour y accéder. Mais c'est une motivation purement égoïste. C'est pas, et encore une fois, je ne mets pas en cause la sincérité de ces personnes, mais c'est très important de pouvoir leur parler, de pouvoir leur montrer leur erreur avec amour. Parce que si ce n'était par l'amour de Christ, je ne serais pas dans la vérité, et par l'amour des gens qui m'ont amené à la lumière. Les témoins de Jéhovah donc pensent que le Jésus-Christ n'est autre que l'archange Michel. Et puis l'autre grand groupe, les Mormons, ils pensent que Jésus-Christ, c'est le frère de Lucifer. Lucifer, c'était un ange, et donc Jésus-Christ est aussi un ange. Et l'un et l'autre de ces anges ont proposé une méthode de salut, et Satan s'était proposé un salut par le mal et Jésus un salut par le bien. Mais c'est encore aujourd'hui, ils ne voient pas la véritable identité de Jésus-Christ. Il y a un passage dans 1 Corinthiens 3:16 qui dit que si l'on se tourne vers Jésus-Christ, le voile est enlevé. La plupart des gens de nos contemporains athées n'ont jamais vraiment considéré Christ sérieusement. Ce qu'ils savent de Christ, c'est le petit bébé dans la crèche qui permet de faire la fête à Noël. Mais la plupart n'ont jamais vraiment considéré la personne de Jésus-Christ. On est prêt à parler beaucoup d'autres choses, comme le bouddhisme. Je crois que sur la antenne 2, en ce moment, il y a un reportage tous les midis pendant cinq jours où on voit des pèlerins aller à la recherche du Bouddha historique. Mais si on faisait quelque chose sur Jésus-Christ, il y aurait un tel tollé que le CSA interdirait qu'on fasse tant de publicité à Jésus-Christ. J'exagère peut-être un peu, mais on peut parler de tout, mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on a de la réaction, on a de l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'il dérange, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est le vrai Dieu, fils de Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit. Et donc, à l'époque aussi, sachez d'abord que dans la Bible, les anges, c'est pas quelque chose de rare. Il y a au moins plus de 300 versets qui parlent des anges. En hébreu, c'est le mot malakim au pluriel, et en grec, c'est le mot angelos qui nous a donné le mot d'ange. Et souvent, ce mot veut simplement dire messager ou serviteur. Les anges tenaient une grande place dans la religion juive, parce que l'on considérait que c'est par eux que les 10 commandements avaient été donnés à Moïse. On avait le sentiment, et ça c'est un bon sentiment à avoir, que nous étions tellement pécheurs que Dieu ne pouvait pas avoir d'interaction avec nous. Et donc il devait passer par des intermédiaires. Et donc il pensait que ces intermédiaires c'était les anges. Lorsqu'on lit la Genèse et que l'on voit les tablettes de la loi, les 10 commandements donnés à Moïse, on n'a pas cette description d'intermédiaire, d'ange, mais dès le Deutéronome 33:2, il est dit « L'Éternel est venu du Sinaï, il est sorti du milieu de ses saintes myriades. » Les myriades, c'était des dizaines de milliers d'anges. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Donc là, ce passage nous invite à penser qu'il y a eu effectivement un intermédiaire par des anges. Le psaume 68:18, si vous notez, je vous invite, c'est toujours bien de prendre des notes, ça vous engage intellectuellement. Si vous êtes comme moi, c'est pas toujours que vous relisez vos notes, mais j'apprends beaucoup en notant les choses. Donc ne vous gênez pas, et si vous n'avez pas de papier, n'hésitez pas à écrire sur votre Bible, pas celle qu'on vous a prêtée, de préférence, mais achetez une Bible que vous pouvez faire vivre en notant, en interagissant avec elle, ou alors, ce qui est mieux, c'est d'avoir un petit carnet ou une tablette sur laquelle vous mettez des points qui vous touchent dans les messages. Le psaume 78:18 dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le lieu saint. » Donc on voit tous ces anges qui entourent l'Éternel. Et puis dans le Nouveau Testament même, dans Actes 7:53, c'est Étienne qui parle au chef religieux en disant « Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges » et qui ne l'avait pas gardé. Dans Galates 3:19, Paul dit même « La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Là, le médiateur, ce serait Moïse, mais il y a toujours cette idée, qui a sans doute une validité biblique, d'un rôle joué par les anges dans le fait que Dieu a confié la loi aux hommes. Et les juifs de l'époque pensaient que Dieu parlait à l'homme par les anges et que les anges portaient les prières des hommes jusqu'à Dieu. Donc ils jouaient ce rôle d'intermédiaire. Mais vous vous souvenez que Jacob avait eu une vision. Il avait vu en rêve une grande échelle qui reliait la terre au ciel, et il y avait des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Il est dit dans Genèse 28:12, cette échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Une espèce d'escalator de trafic là qui se passait entre les cieux. Mais ça semble indiquer effectivement qu'il y avait un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Mais ce qui est remarquable, c'est que Jésus-Christ a expliqué qu'en fait, l'échelle, c'était lui. Il a dit dans Jean 1:51 à Nathanaël, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est lui qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, Jean 14:6. Nous n'avons plus besoin d'anges pour servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Paul affirmait dans 1 Timothée 2:5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, c'est-à-dire un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre, vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur, vous pouvez avoir une relation directe par Jésus-Christ avec le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ et cette personne. Et donc, fort de cet arrière-plan, l'auteur de la lettre va montrer que les Christ est plus grand que les anges. Et encore une fois, c'est pas inutile, même de nos jours, de rappeler cela aux gens qui nous entourent. Lorsque les gens vous disent merci pour votre gentillesse, oh merci, tu es un ange, vous pouvez leur dire, je ne suis pas un ange, c'est Jésus-Christ en moi qui vous bénit. Il va montrer que Jésus est supérieur aux anges dans 5 domaines et il va avoir recours à des citations bibliques, des citations de l'Ancien Testament. Il est très important, lorsque vous témoignez, d'avoir recours à la parole de Dieu. Vos paroles peuvent être bienveillantes, vos paroles peuvent vouloir du bien aux gens, mais la parole de Dieu est la vérité. Et souvent, c'est un mot de la parole de Dieu que vous laissez à quelqu'un qui va faire son travail dans leur cœur. J'ai plusieurs exemples dans ma vie de personnes qui témoignaient qu'en fait, ce qui les avait amenés à Christ, c'était une parole que quelqu'un leur avait donnée, une parole biblique. Et souvent, on voudrait être spécialiste pour évangéliser, connaître la Bible à fond, devant, derrière, connaître aussi l'islam, connaître le bouddhisme, montrer aux gens qui sont dans l'erreur. En fait, on peut laisser la parole de Dieu agir. Elle est toute puissante aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Jean, il est clair que la parole de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. Le Verbe incarné. On va lire les versets 4 à 14. Et on va essayer d'avancer un peu plus vite. Il nous est dit, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice. » Et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont pas-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ? Ce passage, en fait, c'est suivant vos versions, si vous avez des versions qui mettent en italique les citations bibliques, vous avez remarqué que c'est pratiquement que des citations. Le meilleur commentaire sur la Bible, c'est la Bible elle-même. Et la Bible est unique parce qu'elle est complètement en harmonie avec elle-même et que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, sur la route d'Emmaüs, sans qu'il l'ait reconnu, les deux disciples étaient émerveillés parce que cet homme leur montrait que toute la Bible parlait de Jésus-Christ. Alors, cinq aspects par lesquels le Christ est supérieur aux anges. Il est d'abord, il a un nom supérieur. C'est les versets 4 et 5. La question, auquel des anges Dieu a déjà-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? La réponse implicite, c'est une question rhétorique, ça veut dire à aucun autre. Jésus-Christ a reçu le titre de fils que personne d'autre n'a jamais reçu. Alors certains vont dire, il y a des passages, notamment dans Job, où il est question d'anges qui sont appelés fils de Dieu au pluriel. Et c'est vrai que collectivement, il y a quelquefois des passages où ils sont appelés fils de Dieu, mais jamais individuellement. Le seul endroit où la seule personne à qui ce titre de fils s'applique, c'est Jésus-Christ lui-même. La première citation, alors les citations dont je vous parle, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles sont généralement des citations qui viennent de la Septante. La Septante, c'est pas des chrétiens belges qui l'ont écrite. La Septante, c'était une traduction en grec de l'Ancien Testament qui avait été faite à Alexandrie par ce qu'on considérait 70 érudits, 70 spécialistes, 70 sages. Et le mot 70 donne le mot 70, et quand vous lisez des textes, c'est abrégé en utilisant les chiffres romains, LXX. L, c'est pour 50, X, c'est 10, X, c'est 10, donc 50 plus 10 plus 10 égale 70. 70, je ne sais pas faire l'accent belge. Une fois. Et c'est une indication pour certains que c'est probablement pas l'apôtre Paul, parce que Paul n'avait pas l'habitude de citer ces passages bibliques. Il connaissait bien l'hébreu et il donnait les textes que l'on trouve dans la Bible hébraïque. Mais peu importe. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et cette première citation, c'est le psaume 2,7 qui dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Alors certains utilisent ce mot d'engendrer pour dire que oui, c'est la preuve que Christ n'est pas comparable au Père. En fait, le mot de engendrer, ça parle d'une égalité de substance et de nature. Fils et père partagent le même être. C'est intéressant aussi de voir que Paul, dans Actes 13, 33, fait référence à ce psaume, à ce passage. c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et c'est, ça ne fait pas allusion à l'incarnation, à la Vierge Marie, etc. Non, ça fait allusion, d'après Paul, et c'est donc quelque chose qu'on peut prendre comme quelque chose d'officiel, de valide, de sûr. Il est devenu fils par sa résurrection. C'est lorsqu'il a été ressuscité que le psaume 2,7 était applicable. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Il y a une deuxième citation qui est tirée de 2 Samuel 7,14. C'est donc je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est une allusion au prophète Nathan qui parlait à David de sa descendance qui allait construire un temple éternel. Et d'abord, il y a eu la réalisation d'un temple par le fils de David, Salomon, ou un des fils de David. Mais c'est surtout une promesse messianique qui s'est accomplie en Christ. Le plus grand que Salomon, c'était Jésus, nous dit Matthieu dans Matthieu 12, 42. C'est un nom supérieur aux anges. Aucun autre ange n'a été appelé fils ou n'a été engendré par Dieu au même sens que Jésus-Christ lui-même. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ça, c'est le psaume 97, 7. Donc, il a d'abord un nom supérieur, il a ensuite un honneur supérieur. Pourquoi ? Parce que tous les anges se prosternent devant lui. C'est le verset 6. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Le premier-né, ce n'est pas un terme qui désigne un enfant, c'est un terme qui désigne l'importance d'une personne. Parce que le premier-né avait des privilèges que les autres enfants n'avaient pas. Et il est souvent fait référence à un premier-né sans que ce soit nécessairement en relation avec la position dans une lignée, dans une famille. C'est simplement la position d'honneur, la position la plus importante. Il a, versets 7 et 9, un rang supérieur. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ces anges » de ses anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Le roi a un rang supérieur. Il dit au fils, verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice, tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction » par onction, j'ai perdu le mot, comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. C'est encore une fois un passage, une référence biblique. C'est le psaume 104, 4. Les anges sont des esprits qui servent Dieu. Ce ne sont que des serviteurs. Contrairement à Christ, qui est le roi, et on va voir qui est aussi le créateur. Lorsque l'on vous dit qu'il n'est pas dit dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu, nous venons de lire un verset, Hébreux 1, 8, qui est imparable. Soulignez, notez Hébreux 1, 8. Il s'agit en effet de Dieu le Père qui parle au Fils et qui l'appelle Dieu. Ne vous laissez pas influencé par des gens qui vont vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est simplement un ange, comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, et d'autres balivernes. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et c'est le Père qui s'adresse au Fils. Si le Père déclare que Jésus-Christ est Dieu, ça me suffit. Ça vous suffit ? Amen. Il a ce rang incroyable. Il est le Fils et il est Dieu lui-même. Le verset 8 et 9, encore une fois, certains essayent de déformer ça, je crois que c'est la traduction des témoins de Jéhovah, c'est de dire que ton trône est Dieu, au lieu de dire ton trône, ô Dieu, est éternel. Et là, ça voudrait dire que pour combattre la divinité de Christ, ils disent qu'en fait, le Père lui sert de fauteuil. Donc, rappelez-vous de cet endroit, de ce verset, Hébreux 1, 8. Il a un rang supérieur, il a aussi des œuvres supérieures. Les versets 10 et 12 qui citent le psaume 102, 26 à 28, nous disent « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là, ils vieilliront tous comme un vêtement. » Tu les enrôleras comme un manteau, ils seront placés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Ce psaume, en fait, on pourrait dire que c'est une description biblique et poétique d'un principe physique qui a été découvert au XVIIIe siècle, la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit en fait que livrer à lui-même un système se dégrade. S'il n'y avait pas le soleil, la terre se refroidirait. On voit qu'il est couvert un peu aujourd'hui, il fait frais. Tout système a tendance à se dégrader. Une voiture brillante, quand vous l'achetez, quelques années, quelques décennies plus tard, c'est un tas de rouille dans un champ abandonné dans un champ. Et c'est un principe physique qui nous permet de comprendre le monde et de faire des appareils, mais c'est aussi ce qui nous sépare de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Dieu ne change pas. Jésus est immuable. Le passage que je viens de dire, le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, c'est justement dans cette lettre aux Hébreux, c'est Hébreux 13, 8. Il est tout puissant. Les anges sont des créatures. Lui, il est le Créateur éternel. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains, nous dit le psalmiste. Et on n'a pas le temps de se perdre dans les galaxies, mais lorsqu'on commence à réfléchir sur les galaxies qui peuvent renfermer près de 100 milliards d'étoiles, à la vitesse de la lumière, pour traverser certaines galaxies, il faudrait 100 000 ans, et la lumière va vite. 300 000 km à la seconde, on s'aperçoit que il est immensément puissant, immensément différent de nous. Nous sommes des créatures, les anges sont des créatures, Jésus-Christ est Dieu. Et il obtient aussi des résultats, versets 13 et 14, des résultats supérieurs. Enfin, en quel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » Sous-entendu, il a dit à aucun autre nom, aucun autre ange ou aucun autre être. Ça, c'est important de réaliser la différence. Ça, c'est le psaume 110, verset 1. « Les anges sont des esprits qui servent Dieu en lui rendant un culte. » Le service dont il est question ici, c'est le mot qui nous donne le mot « liturgie ». Il y a le mot de « diaconat », d'aider pratiquement. Là, c'est un service plus dans l'adoration, mais aussi dans le service. C'est eux qui font marcher l'univers, mais ils sont au service de Christ. Faire des ennemis de ces marchepieds, ça c'était une ancienne coutume parmi les Juifs, de mettre le pied sur le cou des rois vaincus. Ça, on voit ça dans Josué. Mais la bonne nouvelle, c'est ce dernier passage, ce dernier portion du verset 14 qui nous dit que les anges ne sont pas tous des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés pour apporter, donc ils sont au service de Dieu, mais ils sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Les anges sont envoyés pour nous aider, nous aussi. Alors on a tous entendu parler des anges gardiens. Alors c'est pas développé nécessairement dans la Bible, mais ce passage pourrait indiquer que oui, les anges viennent pour nous aider. Et pourquoi est-ce qu'il est question des chrétiens au futur ? Le salut, on le dit souvent, que c'est, il y a un aspect passé, c'est le moment où on a reçu Christ. Le moment présent, c'est lorsqu'on est transformé à l'image de Christ. Et puis un moment futur où on sera dans l'état éternel, en présence de la gloire de Dieu. Et il nous est même dit, dans 1 Corinthiens 6, 3, qu'un jour nous jugerons les anges, probablement les anges déchus, je ne suis pas sûr, mais ça paraît plus logique. Et nous avons, même si des fois nous aimerions être comme les anges, qui apparemment ont des puissances, qui apparemment ne vieillissent pas, qui durent eux aussi pour toujours, ils n'ont pas le salut que nous avons. 1 Pierre 1,12 nous dit que les anges désirent plonger leur regard dans les choses annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Les anges sont captivés par l'histoire de Dieu avec les hommes. Il y a même certains qui disent qu'en fait Lucifer, qui était un ange qui s'occupait de la louange dans les cieux, qui était un ange de toute beauté, c'est peut-être ça qu'il a fait se rebeller contre Dieu, c'est de voir qu'il y avait ces nouvelles créatures qui allaient être bénies par Dieu par une relation si spéciale, avec une relation de salut. Alors c'est pas nécessairement biblique dans le sens où il n'y a pas un passage, mais j'aime bien cette idée qui expliquerait pourquoi la rébellion est née dans le ciel. En attendant, il y a des anges qui sont là pour nous soutenir, pour nous encourager tout au long de notre vie. Il est dit qu'ils sont comme des serviteurs, comme une... Il fait de ces anges, on avait lu au verset 7, des esprits de ses serviteurs, une flamme de feu. On voit une rapidité de l'action des anges, ils peuvent se déplacer plus vite que la lumière. Et en même temps, on sait que des fois, ils peuvent être occupés dans des combats spirituels. Gabriel nous dit dans Daniel qu'il avait combattu l'ange qui était au-dessus de la Perse. Tout ça pour dire, pour résumer, que Jésus a un nom, un honneur, un rang, des œuvres et des résultats supérieurs à celui des anges. Ça va nous mener à savoir que les anges avaient, d'après ce qu'on a rappelé au début de l'étude, avaient été intermédiaires pour amener la loi. Jésus-Christ, lui, a amené la révélation de l'évangile de la grâce. Et l'auteur de la lettre va nous montrer que l'évangile est supérieur à la loi. Et on verra la semaine prochaine des conséquences pour nous sur cette réalité de la supériorité de Christ aux anges. Prions. Seigneur, nous avons l'impression de soulever un voile de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Même en tant que chrétien engagé ou chrétien de longue date, Seigneur. Et pourtant, ta parole est là pour nous révéler des vérités ou nous les suggérer. Encore une fois, ce que tu as révélé nous appartient, ce que tu ne nous as pas révélé t'appartient, Seigneur. Nous ne voulons pas aller là où tu ne veux pas que nous allions, mais nous te remercions pour ce passage qui nous montre, qui lève un peu le voile sur l'activité des anges et surtout, Seigneur, qui nous rappelle que Jésus-Christ n'est pas un ange, mais qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il a un nom supérieur aux anges, il est digne de toute notre louange, de toute notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, de nous tourner vers d'autres que toi, alors que c'est toi, Jésus, le meilleur. Aide-nous à réaliser de façon un peu plus véritable, un peu plus vécue, intimement, Seigneur, toute ta puissance, tout ton amour. Nous prions ces choses dans ton nom précieux, comme nous venons de le voir. Amen.